On vient donc de parler à Marie-Laurence Delaunay sur certains faits qu'on connaissait dans l'histoire d'André Boisclair, mais pour comprendre le droit derrière tout cela, le droit criminel, qui de mieux que l'avocat criminaliste, Maître Jean-Pierre Rancourt, pour répondre à mes questions. Maître Rancourt, salutations.
Bonjour à vous.
Maître Rancourt, essentiellement, moi j'ai deux grandes questions. Premièrement, on va parler des chefs d'accusation. Quand quelqu'un est accusé d'agression sexuelle armée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette affaire-là?
Ouais, quand on pense arme, on se dit, ben, y avait-tu un gun, y avait-tu un couteau? Ça prend pas grand-chose pour que ce soit armé. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes fait armé. Si, par exemple, vous demandez à votre chien, ordonnez à votre chien de sauter sur un individu, ben, c'est un voie de fait armé. Le chien devient une arme.
D'accord.
Si vous lancez quelque chose, un bout de bois, par exemple, sur quelqu'un, ça peut devenir une arme. Alors, dans le cas d'agression sexuelle armée, est-ce qu'on a utilisé quelque chose qui peut s'apparenter à une arme? Ça peut être n'importe quoi. Et j'ai vu des cas où les procureurs de la Couronne portent des accusations d'armée. J'ai vu une fois, moi, voie de fait armée, où le mari avait lancé une enveloppe de jambon à sa femme sur la tête, et c'était un voie de fait armée. Alors, ça prend pas grand-chose.
Dans ce qu'on comprend ici, ce qui est reproché, c'est d'avoir utilisé un jouet sexuel. Un jouet destiné à des jeux sexuels pourrait devenir, dans le chef d'accusation, une arme?
Dépendamment de la preuve, est-ce qu'il s'en est servi pour intimider l'autre individu, pour le soumettre, par exemple, à quelque chose? À ce moment-là, c'est possible, mais... il s'agit de voir la preuve, là.
Je comprends. Mais c'est pas impossible qu'un objet comme celui-là, un vibrateur, par exemple, c'est pas impossible qu'un vibrateur destiné au jeu sexuel puisse être considéré dans le contexte d'une agression sexuelle comme une arme. Pas impossible.
Oui, c'est ça, parce que c'est peut-être destiné pour un jeu sexuel pour lui, mais pour la présumée victime, c'était peut-être pas ça, là. Ça devenait peut-être une arme pour lui, là, qu'il peut pas s'en défaire.
OK. Et là, on en a souvent parlé, vous et moi, puis quand on utilise l'expression « agression sexuelle », je vais oublier l'armée deux minutes, là, mais « agression sexuelle », ça peut aller de... Puis corrigez-moi, là, si je suis dans le champ, là, mais ça peut aller de la tape sur une fesse jusqu'au viol?
Absolument. Absolument. C'est d'appliquer la force, par exemple, elle peut être minime, avec un caractère sexuel. Vous prenez le sein d'une femme, elle n'est pas consentante, c'est une agression sexuelle. Vous lui tapez une fesse, comme vous dites, alors qu'elle n'est pas consentante, ça devient une agression sexuelle. Alors, il y a plusieurs stades d'agression sexuelle, mais ça peut partir de la tape jusqu'au viol.
OK. Et là, on constate que la sentence maximale possible, ça serait 14 ans?
Oui, c'est ça. C'est des crimes, ça, où c'est de 0 à 14 ans. Il n'y a pas de minimum dans ce cas-là. Ben, ça dépend toujours de l'accusation. On ne le sait pas encore, là. Moi, j'ai pas vu l'acte d'accusation, mais je pense qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas de minimum. Donc, le maximum serait 14 ans.
OK. Là, je veux comprendre la mécanique, Maître Rancourt, OK? Ce sont des gestes qui se sont passés il y a 6 ans. En 2014, en janvier 2014, présumément. Et là, comment ça marche? Là, si je comprends la séquence des choses, il y a quelqu'un qui porte plainte à la police fait enquête, la police, après son enquête, s'en va voir le directeur des poursuites criminelles et pénales, explique ce qu'ils ont comme preuves, puis témoignages, etc. Et là, à un moment donné, il y a une décision de prise, à savoir, OK, messieurs, madame, les policiers, allez arrêter l'individu ou on s'en va devant un juge pour un mandat visé. Expliquez-moi ça, là.
Ben c'est ça. Moi, je pense que dans ce cas-là, la Couronne, lorsqu'ils autorisent la plainte, veulent donner des conditions de remise en liberté. Ils ne veulent pas que l'individu demeure incarcéré pendant le temps des procédures. Donc, on émet un mandat visé, c'est-à-dire que les policiers doivent procéder à l'arrestation. Habituellement, ils vont l'appeler, ils vont lui dire « Viens au poste, on doit t'arrêter, on va te relâcher avec des conditions. » C'est pour mettre des conditions de remise en liberté, comme par exemple ne pas avoir de contact avec la présumée victime, etc., etc. Alors ça, c'est la façon de procéder pour obtenir des conditions sans besoin d'aller devant un juge faire une requête en cautionnement ou en détention.
Là. OK, mais là, il y a un juge qui a signé ça, par exemple. pour l'instant.
Oui, le mandat a été signé par un juge et, et il a fallu que le procureur, que le policier démontre au juge qu'il y avait des motifs raisonnables probables de croire que le crime avait été commis et qu'il devait être arrêté pour que des conditions lui soient accordées.
OK. Ce matin, on a vu des images. M. Boisclair s'est présenté au poste de police tôt ce matin, accompagné de son avocat. Expliquez-moi comment ça marche. Une fois qu'il rentre à l'intérieur des portes, là, on n'a plus de caméra à l'intérieur. Expliquez-moi comment ça marche. Mettons que vous accompagnez vous, là. Vous accompagnez M. Boisclair ce matin. C'était vous qui étiez là. Comment ça va se passer? Vous vous présentez au comptoir, puis vous dites bonjour. Moi, je suis maître Rancourt, puis voici mon client que vous voulez arrêter. Expliquez-moi ça.
Oui, je l'ai fait dans Guy Lafleur exactement la même chose. Mandat visé, on est rentré au poste. Alors, on arrive là et les policiers vont nous asseoir, ils sont toujours deux, dans une salle avec eux, un bureau. Et là, ils vont dire, bon, est-ce que vous voulez faire une déclaration? Alors, l'avocat va dire, non, mon client n'a pas de déclaration à faire habituellement. À ce moment-là, les policiers doivent dire, ben écoutez, vous n'avez pas de déclaration. Voici les conditions. On va vous remettre en liberté avec une promesse. Là, vous allez promettre de suivre ces conditions-là. Par contre, souvent, et dans le cas de Lafleur, ça a été le cas, on voulait lui faire faire une déclaration. Et même si l'avocat dit non, ils ont utilisé un truc en disant on a besoin de l'identifier, on va l'amener à l'arrière. Et là, on lui a demandé à trois reprises de faire une déclaration, de ne pas prendre le conseil de l'avocat, etc. Alors, c'est ça. Probablement que c'est un peu ça aussi dans le cas de l'accusé Boisclair. On voulait avoir une déclaration de lui. Mais si l'avocat est là, il va dire, écoutez, non, il n'y a pas de déclaration à faire.
OK. Là, mais est-ce que ce matin, M. Boisclair, là, il avait son masque de la COVID? Est-ce que les policiers lui ont dit, on vous exige que vous enlevez votre masque? Est-ce qu'ils ont pris les empreintes, les photos? Est-ce qu'ils ont tout fait ça?
Ben, possiblement que oui, parce qu'ils doivent l'identifier. Et comme c'est un acte criminel, ils ont le droit de prendre les empreintes digitales et photographies. C'est sûr que s'ils ont pris les photographies, ils ont même enlevé le masque. Ça, c'est clair.
OK. Et là, à ce moment-là, une fois que ça s'est terminé, là, M. Boisclair, il n'y a jamais eu de menottes, M. Boisclair, ce matin, fort probablement, là?
Non. OK. Non.
Et là, à un moment donné, c'est terminé. Puis là, vous repartez avec votre client. Puis là, lui, il doit respecter les conditions. C'est ça?
Oui, il y a une date de comparution à la cour avec des conditions à respecter. Il y a ça dans ses poches, alors il doit respecter ça. La date de comparution, l'avocat va pouvoir le représenter. Il n'aura pas besoin d'être présent, comme dans tous les cas. Là, on sait que les accusés n'ont pas besoin de se présenter. Les avocats représentent jusqu'à temps que soit qu'il y ait une enquête préliminaire ou un procès ou un plaidoyer. Là, à ce moment-là, l'accusé doit être là.
Est-ce que, dernière question, maître en cours, est-ce que ce matin-là, est-ce qu'André Boisclair connaît s'est fait dire, connaît le nom de l'individu qui est présumé victime ici?
Bien, ça dépend de l'accusation en tant que telle, si on l'a nommé ou on ne l'a pas nommé. Souvent, on met des initiales, en tout cas dans tous les cas où c'est des mineurs, par exemple, on ne sait pas si c'est un mineur. C'est,
non, semble-t-il que non. Non, semble-t-il que non, il est dans la vingtaine.
Bon, à ce moment-là, si les événements sont survenus alors qu'il était majeur, son nom devrait apparaître sur la dénonciation. Alors, il pourrait savoir. Et les policiers ont peut-être dit à l'avocat et à l'accusé ce matin, bon, on veut une déclaration parce que c'est un événement qui est survenu avec Joe Blow, dévoiler son nom.
Puis si il y a des conditions de ne pas contacter cette personne-là, encore faut-il qu'il la connaisse, qu'il reconnaisse le nom.
Quand il donne la promesse, le nom est dessus, possiblement son adresse, son lieu de travail, etc. Tout ça, ça va être banni. Il ne pourra pas se présenter proche de ces endroits-là.
Hmm. Et dernière chose, en fait, j'avais oublié, je vais vous poser une dernière chose. C'est un personnage public, il a fait de la politique. Est-ce qu'on est plus sévère dans l'évaluation de la preuve avant d'accuser pour s'assurer que c'est pas une vengeance, que c'est vraiment fondé, là, c'est pas une partie de... En sachant très bien, c'est pas une partie de pêche, en sachant très bien que simplement l'accusation va faire un tort énorme. Est-ce que les procureurs, puis le juge qui a signé ça, sont plus prudents pour éviter, là, dans le fond, une vendetta, pour s'assurer que c'est... Les probabilités sont très grandes que ça se soit passé.
Ouais, je dirais qu'ils sont plus prudents et ce qu'ils font, les procureurs de la Couronne, c'est qu'il y a des équipes spécialisées dans ce genre de crime-là. Ils rencontrent les policiers. Parfois, ils vont demander un complément de preuve pour s'assurer que bon, ils ont vraiment la conviction qu'ils peuvent avoir une condamnation. C'est le fardeau qu'ils ont. Et oui, les policiers, je dirais que les procureurs vont être encore plus prudents quand c'est une personne publique parce qu'ils veulent pas se tromper. Et ils le font avec les citoyens ordinaires, mais encore plus avec les personnes connues.
Très bien. Merci beaucoup de ces renseignements, maître Rancourt.
Merci, bonne journée à vous.
Bye. Maître Jean-Pierre Rancourt, l'avocat criminaliste.